CFO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G-Collect.
Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X, CFO Radio-du-bas TV. À mes côtés pour co-animer cette émission aujourd'hui, Laurent Lamoureux, associé de BDO France, 5e réseau mondial d'audit et de conseil, plus de 111 000 collaborateurs présents dans 164 pays. Bravo. Et Yann Alosry, responsable grand compte chez G-Collect. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Jean-Louis Tercian, contrôleur général économique et financier, colonel RC, dit-on, de l'armée de l'air et de l'espace, c'est bien de rajouter de l'espace, et auteur surtout de La souveraineté stratégique, une question de tempo. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Alors, vous êtes parisien, vous avez travaillé à l'ART, aujourd'hui c'est l'ARCEP.
Tout à fait.
Vous y faisiez quoi ?
Alors, je m'occupais principalement de négociations internationales. Dans le domaine de l'interconnexion des réseaux de différents pays. Et donc, c'était des négociations dans le cadre des Nations Unies, à l'Union Internationale des Télécommunications à Genève, et différentes autres négociations entre pays européens.
De sacrées discussions.
Donc ça a duré à peu près 5 ans, de 98 à 2003.
Et après, vous quittez le monde des télécoms pour entrer dans un ministère, c'est ça ?
Tout à fait. Mais en fait, j'ai quitté le monde des télécoms pour aller plus précisément dans les services de la Commission européenne,
ouais,
à Bruxelles, où je me suis occupé, pour changer un peu de ce domaine des télécoms que je fréquentais depuis une dizaine d'années, dans le domaine de la politique de concurrence.
D'accord. Et au ministère, c'était l'intelligence économique. Alors, intelligence, c'est un faux ami, hein, je le dis, parce que intelligence et économie en France, c'est pas vraiment bon. C'est quoi exactement l'intelligence économique ?
Et des fois, il y a même des esprits taquins qui disent qu'intelligence et fonctionnaire, ça fait un ensemble.
Je vais pas aller jusque-là, vous avez remarqué.
Mais non, en l'occurrence, c'est effectivement un faux ami, c'est le renseignement.
Ouais.
Donc ça a été une traduction qui a été faite au moment de la création de ce concept et qui a un petit peu d'ailleurs pénalisé l'intelligence économique. Mais en tout cas, j'arrivais à mon retour de la Commission européenne dans la création de ce service qui avait été créé par Thierry Breton d'ailleurs à l'époque où il était ministre de l'économie et des finances et qui cherchait à avoir un positionnement assez large au niveau du ministère de l'économie et des finances pour toutes les questions lié à l'intelligence économique. Je m'occupais plus particulièrement, au moins au début, d'analyse stratégique et de prospective.
On va avoir plein de questions, mais vous venez de publier aux éditions du Palio « La souveraineté stratégique, une question de tempo ». Pour qui avez-vous écrit ce livre ?
Alors, je l'ai écrit de façon assez généraliste, c'est-à-dire l'intelligence économique, depuis ses débuts, a beaucoup été une affaire de spécialistes, de personnes très pointues dans des domaines, que ce soit en matière de veille, que ce soit en matière de stratégie d'influence, ou de contre-influence d'ailleurs, ou en matière de sécurité économique. Et j'ai voulu essayer de montrer, au travers de cet ouvrage, comme du précédent, que non, c'est l'affaire de tous. C'est pas uniquement l'affaire d'une centaine de spécialistes d'intelligence économique qui se concentrent là-dessus, mais ça peut vraiment être utilisé et utile pour toutes les entreprises.
Bon, on va voir ça en détail, Laurent.
Alors, une question, est-ce qu'en France, on est à la pointe de l'intelligence économique ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on est assez curieux en France par rapport aux pratiques des autres, ou est-ce qu'on veut un peu replier sur nos bonnes pratiques qu'on estime être peut-être les meilleures du monde ?
Alors là, je ne vais pas vous donner de scoop à ce sujet. Effectivement, on n'est pas forcément en pointe sur le sujet. Ceci étant, on a quand même une caractéristique, c'est d'avoir cette vision d'ensemble des différents aspects de l'intelligence économique, qui est quelque chose qui est en train d'être vu de façon très proactive, notamment par les Américains ou par les Anglo-Saxons en général, qui se rendent compte que le fait de lier ces aspects veille, influence, sécurité économique, c'est extrêmement utile pour mettre en œuvre des stratégies. Après, ce qui effectivement pénalise encore sans doute au niveau français, c'est que on est très bon pour conceptualiser, très bon pour définir, on va dire, pour réaliser des rapports ou pour analyser des situations. La mise en œuvre, après, peut pêcher un petit peu plus.
Oui.
Et qui sont les premiers de la classe, les Anglo-Saxons ?
dans cette... Les anglo-saxons, mais les Chinois également sont extrêmement forts en la matière. Beaucoup de pays, la Corée du Sud a beaucoup également utilisé des stratégies aussi bien de veille que d'influence pour progresser énormément. Donc, beaucoup de pays sont en pointe. Sans forcément, d'ailleurs, utiliser ces termes-là ou ces concepts, simplement en les pratiquant. Et c'est là, je pense, où on a aussi à apprendre de ça. C'est là aussi où, modestement, à travers mon ouvrage, j'ai essayé de montrer que ce qui était important, c'était pas seulement d'analyser, de conceptualiser, mais c'était vraiment de faire et de le faire sur le terrain.
Yann.
Alors, quand on parle de souveraineté, c'est tout un débat. Parle de souveraineté, parle de contrôle, et on a envie aujourd'hui de poser la question, surtout à quelqu'un comme vous, sur la contradiction qu'on a entre les temps publics et les temps économiques. On est marche avant, marche arrière sur le nucléaire. On veut de l'hydrogène pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on va guérir de cette maladie entre la nécessité politique et la nécessité, j'ai envie de dire, vitale ou même économique?
Je crois que la première étape de la guérison de ce constat que vous décrivez et que je partage tout à fait, c'est déjà de regarder la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire de bien se dire, oui, effectivement, on a tel et tel souci, on a un monde qui s'accélère technologiquement. On a pu le voir au travers de beaucoup d'exemples encore récemment. On a un monde qui s'accélère sur le plan réglementaire. On le voit ne serait-ce que dans l'industrie automobile, avec une accélération énorme qui est imposée à une industrie qui n'est pas habituée à une telle précipitation de calendrier. Et à côté de ça, on a des prises de décision et je dirais des garde-fous qui sont ceux de sociétés évoluées et qui rendent un peu, qui créent des conflits en la matière, entre un ralentissement d'un côté et une accélération de l'autre. Et ça, déjà, il faut le regarder en face, ne pas hésiter à se comparer, parce qu'il y a aussi des sociétés évoluées qui sont capables de prendre des décisions plus rapides. On prend très souvent l'exemple d'un hangar agricole qui met 2 ans à être construit en France, 9 mois en Allemagne, vous me pardonnerez à quelques semaines près, 3 mois au Royaume-Uni, et qui se fait en quelques jours en Chine. Et ça, on pourrait l'appliquer à la ligne 14 du métro et son prolongement.
Au JO.
Ou d'autres exemples. On a quand même une date limite. Il vaut mieux que tout soit prêt pour fin juillet.
Alors, je ne demande pas comment on fait pour être intelligent, j'y ai renoncé, mais comment on fait pour faire de l'intelligence? Quels sont les signaux qu'on regarde? Alors, on parle tout le temps de signaux faibles et signaux forts. Qu'est-ce qu'on peut lire et comment vous faites pour lire ces évolutions, ou en tout cas les anticiper?
Donc la première chose, c'est déjà, là encore, d'avoir conscience de nos propres biais. C'est-à-dire qu'on a forcément, sur des sujets, des idées préconçues. On dit, j'ai plutôt tendance à penser comme ça, mais est-ce que c'est encore la vérité? Est-ce que j'ai pas besoin déjà d'élargir un peu mes sources de renseignements? Après, avec toute l'information que l'on peut avoir de nos jours, il est essentiel d'arriver à filtrer. Il y a beaucoup de scories, beaucoup de choses. Donc, cette première étape, je dirais, est absolument incontournable. Sinon, on se retrouve rapidement dans un biais qui nous conduira forcément vers une mauvaise analyse.
Ça date de quand, l'intelligence économique? À partir de quand on peut dater le...
Alors, intelligence économique, sous l'angle anglo-saxon, c'était à la fin du 19e siècle, mais ça a vraiment décollé avec les travaux de Michael Porter dans les années 80 et à partir du début des années 90 avec le rapport Martre en France.
Oui, c'est très récent en fait.
C'est très récent, mais qui n'a vraiment démarré complètement ce concept d'intelligence économique qu'avec les rapports Carayon du début des années 2000.
2000, oui. On dit souvent qu'on est en guerre économique, en guerre réelle. C'est pour ça qu'il y a de l'intelligence économique. C'est la vérité, on est en guerre économique.
Alors c'est un concept diversement utilisé. Beaucoup disent non, c'est trop violent de parler de guerre économique. Moi, j'ai tendance à dire, n'hésitons pas à regarder les choses telles qu'elles sont. On a effectivement des concurrents qui sont aussi des partenaires, mais qu'on regarde des fois en oubliant qui sont nos concurrents. Ça peut être de façon très proche des pays comme l'Allemagne, comme le Royaume-Uni. N'oublions pas qu'à la fois, il faut continuer à travailler avec eux, mais qu'ils poussent en priorité leurs propres intérêts. Et je dirais, là aussi, regardons les choses et le monde tel qu'il est.
Effectivement. Jean-Louis, pour terminer, vous êtes, je le disais au début, colonel de réserve dans l'armée de l'air et de l'espace. Ça consiste en quoi, colonel de réserve ?
Alors, c'est une réserve citoyenne, c'est-à-dire que c'est un réseau de colonels de réserve qui sont recrutés auprès du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace pour leurs compétences dans le monde professionnel. Il n'y a pas de période, on ne gravit pas les échelons depuis le service national, pour ceux qui l'ont fait comme moi, jusqu'à arriver à ce grade-là. On est directement promu colonel de réserve et on travaille dans des groupes de travail où on réalise des publications. Enfin, en tout cas, on se met au service.
Des publications qui sont disponibles ou qui sont...
Ça dépend. Il y a des groupes de travail qui sont destinés principalement à l'armée de l'air. Il y en a d'autres qui sont plus publics.
Merci beaucoup Jean-Louis. Merci également à vous, Laurent, Yann. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G-Collect.